Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission de cinéma qui dure 30 minutes avec des chroniques et puis aujourd'hui une interview, ou plus exactement un extrait de la conférence de presse qu'a donnée Jessica Hausner, la réalisatrice autrichienne, pour Club Zéro, le film qu'elle présentait au dernier festival de Cannes. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors toi, de quoi tu vas nous parler? Tu vas nous parler à nouveau de Robert Rodriguez.
C'est ça, l'inénarrable Robert Rodriguez qui revient avec un projet extrêmement casse-gueule, un cinquième Spy Kids.
Quant à Marine, elle nous parlera de Je t'aime moi non plus, le film de Serge Gainsbourg qui ressort sur les écrans. Et puis ce sera l'occasion pour elle de reparler aussi de Jane Birkin qui nous a quittés il y a peu. Et puis quant à moi, je vous parlerai de Club Zéro, donc le film de Jessica Hausner. Mais nous allons débuter cette émission avec le Luc Besson, le dernier Luc Besson qui revient nous voir en nous racontant l'histoire d'un homme qui trouve réconfort auprès des chiens. C'est Dogman.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
J'ai toujours adoré me travestir. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas vraiment qui on est, n'est-ce pas? On se déguise, on s'invente un passé pour oublier le sien.
Est-ce que le dernier film de Luc Besson a du chien? On aura vite répondu à cette question. Mais est-ce que le Festival de Venise a eu du nez quand il a décidé d'inviter trois réalisateurs qui ont eu des accusations d'agression sexuelle, à savoir Roman Polanski pour De Palace, Woody Allen pour Coup de chance sur les écrans et dont nous parlerons la semaine prochaine, et hop, Luc Besson pour Dogman. Alors si ce n'était le cas de Polanski qui n'est pas tout à fait réglé, les deux autres réalisateurs ont passé l'épreuve de la justice, mais pas forcément celle de l'opinion publique. Ainsi, Luc Besson parvient toujours à monter des projets, malgré le four que fut Anna en 2019, tout comme son Valérian, qui, s'il a quand même rempli les salles, a coûté plus cher qu'il n'a rapporté, ce qui, dans le business, n'est jamais bon, et Luc Besson est plutôt dans le business du cinéma que dans l'œuvre artistique. Alors oui, Dogman a du chien, même beaucoup de chien, c'est l'histoire d'un enfant qui vit dans une famille dysfonctionnelle, pour le moins, et violente, et qui va se faire bien mieux accepter des chiens que des hommes. Pour tout dire, il va vivre une partie de son existence dans un chenil. Et il le confie à la psychiatre qui l'interroge pour comprendre son histoire. Oui, il trouve davantage de qualités aux chiens qu'aux hommes, et quand il les énumère, on serait presque d'accord avec lui. Le personnage a ce fond de misanthropie qui lui permet, quand c'est nécessaire, de supprimer une vie humaine. C'est ce qui lui vaut d'être en cellule. Le film de Besson est construit sur un flashback qui permet de révéler l'histoire de cet homme qui s'appelle Douglas, interprété par Caleb Landry Jones, toujours aussi étonnant. Il avait remporté le prix d'interprétation à Cannes pour le film Nitram. Il est donc habitué au rôle fort et fragile à la fois. Alors il incarne ici un anti-héros, car oui, ce Dogman est un être blessé, mais c'est aussi un homme dont la morale est à dimension variable. Rien d'étonnant que Besson se soit emparé de cette histoire qui, lui, s'est déjà intéressé aux blessures de l'enfance qui réveillent le besoin d'en découdre une fois adulte.
Tu les aimes, les chiens, hein? Plus que t'aimes ta propre famille?
Ça, c'est sûr.
Ainsi donc, le film est construit simplement. Deux récits sont enchevêtrés. Il y a le présent, soit l'interrogatoire avec une jeune psychiatre qui, est confrontée à un ex-mari violent. Et puis le passé qui nous plonge dans une enfance affreuse avec un père psychopathe et un frère qui le suit. Besson s'empare du trouble de l'identité chez ce garçon qui a plus à faire avec les chiens qu'avec les hommes. Alors une fois jeune homme, il découvre l'amour et le théâtre d'un seul coup, d'un seul, mais ne conserve que le théâtre, ou plutôt le musical, ce qui nous donne une séquence troublante d'un homme travesti en Édith Piaf. On se félicite d'être français pour comprendre les paroles d'ailleurs. Ainsi, Besson coche beaucoup de cases, les violences conjugales, le queer, le handicap, car son père l'a mis mal en point. Alors dans un récit, on est dans la confidence, notre anti-héros se dévoile au psychiatre et se couche sur le divan, et puis quand on est dans le passé, Besson fait ce qu'il aime faire, on est dans l'action avec des trafiquants de drogue vraiment méchants et aucun homme qui ne rattrape l'autre. La chose la plus étonnante est sûrement ce que peuvent faire ces chiens, ils exécutent des prouesses qu'on voit d'habitude dans les films plutôt familiaux. Là, Besson les corrompt, ils connaissent la saveur du sang. sang, l'anthropomorphisme est de rigueur.
Et vous n'aviez personne d'autre qui vous montrait de l'attention ou un peu d'affection?
Les enfants prennent l'affection où ils la trouvent. Ce sont mes bébés. Autant que je sache, les chiens n'ont qu'un seul défaut. Ils ont confiance en l'homme.
C'est dans cet équilibre entre action et confidence que le film est le plus aimable. La prouesse de Caleb Landry-Jones, qui aurait pu jouer un Joker, y est pour beaucoup. Il n'empêche que le propos est quelque peu grippé par des envolées mystiques et une morale un peu plombante sur la société et les hommes qui la composent, à tel point qu'il ne reste que la souffrance de notre anti-héros avec des poussées de pathos et les tentatives pour y faire face. Il reste néanmoins des scènes réussies, voire même drôles, qui font de ce Besson un film appréciable si on est poli. Dogman est en salle depuis le 27 septembre. Le film de Serge Gainsbourg, sorti en 1976, Je t'aime moi non plus, ressort sur les écrans, ce qui donne l'occasion eh bien, à Marine de parler de ce film, mais aussi de son actrice, Jane Birkin, qui nous a quittés il y a peu.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Jane Birkin et Johnny, une jeune serveuse dans un restaurant pour routiers aussi sale que peu accueillant. On l'appelle Johnny car, je cite, elle n'a pas de sein et un gros cul. Oui, car visiblement, selon Serge Gainsbourg, qui réalise le film, les fesses taille 34 de Birkin sont des grosses fesses. Un jour, deux routiers gays débarquent. Ils ont les cheveux longs et portent des marcelles, signe d'une homosexualité évidente, donc. Et l'un d'entre eux, Kraski, se trouve irrémédiablement attiré par Johnny car, de dos, elle ressemble à un garçon. Car c'est bien connu, lorsque l'on est homosexuel et attiré par les hommes, et bien n'importe quelle personne aux cheveux courts de dos fait illusion. Johnny, elle, tombe amoureuse de Kraski, qui ne veut coucher avec elle qu'en pratiquant la sodomie, tandis que le petit ami de Kraski, Padovan, jaloux et violent, rôde en cherchant à se venger.
Tu perds ton temps, ma petite. Kraski n'aime pas les femmes.
Le premier long-métrage réalisé par Serge Gainsbourg en 1976 n'est pas un film très aimé et pas un film très aimable non plus. Il faut certes le replacer dans le contexte. Fin des années 70, l'homosexualité en France est toujours un tabou. Les représentations au cinéma sont rares. Néanmoins, il est difficile de prêter à Gainsbourg des velléités d'inclusivité tant son film, à force de chercher la provocation à tout prix, se vautre dans l'homophobie la plus rance. Le problème, c'est que Serge Gainsbourg ne met pas en scène des personnages gays pour promouvoir la tolérance ou même pour s'interroger sur le genre. Non, ces personnages sont simplement utilisés pour choquer. Comme des créatures déviantes et perverses, les homosexuels ici sont violents, vicelards, obsédés et totalement demeurés. Seul le personnage de Jane Birkin, pas forcément plus intelligent mais évidemment plus pur, surnage dans cet océan d'ordures tel un ange que Gainsbourg prend un grand plaisir à souiller. Mais ce qui choque le plus ici, c'est sans doute le niveau atterrant des dialogues, doublés qui plus est à la truelle entre jeux de mots aussi bas du front qu'autosatisfaits et phrases ordurières totalement gratuites. Quelques exemples. Je m'appelle Kraski. Réponse, crasse, étrange comme nom propre. Ou encore, en parlant d'un homme qui n'arrête pas de péter, c'est ton patron, l'usine à gaz ? Oui. Eh bien, il manque pas d'air. Voilà. Heureusement que ces dialogues ont été écrits par un génie de la musique et de la poésie. Qu'est-ce que ça aurait été sinon ? À vrai dire, on est vraiment en droit de se demander, étant donné l'état physique lamentable dans lequel se trouvait Gainsbourg sur le tournage de ce film, comme l'attestent diverses interviews de l'époque, s'il est pertinent de donner une caméra à un homme sous, en même temps, s'il était interdit de tourner bourré, l'histoire du cinéma serait sans doute bien mince.
C'est pas comme les autres metteurs en scène qui essayent de manœuvrer le truc, il me connaît. Alors il dit, mais non, tais-toi, marche pas comme ça, on n'est pas dans le film de Zidi. Alors, je sais pas quoi faire.
Il y a pourtant de bonnes idées en termes de décor. Ce motel miteux où l'on s'arrête, qui n'est pas sans rappeler le Bagdad Café, version sud de France. Un motel où les divers personnages n'arrêtent pas de se frotter à poil par terre dans une volonté affichée de choper un maximum de mycose. Une rivière boueuse où on se baigne nu, des déchetteries isolées sous le ciel du sud colorisé en bleu cyan, ce dancing glauque où émerge quand même une belle scène, la scène de danse entre Kraski et Johnny sur le célèbre morceau « Je t'aime, moi non plus ».
Pourquoi tu veux déjà me quitter ?
malheureusement, pour le reste, on est simplement enseveli sous des images d'une subtilité incroyable, hein, telles que Jane Birkin mangeant de gros salsifis pleins de crème avec les mains. Et puis l'une des thématiques centrales du film, la sexualité, est quand même mise en scène de façon très problématique. Jane Birkin se faisant sodomiser en hurlant de façon insoutenable pas moins de 4 fois dans le film, ce qui n'empêche pas l'acte d'être clairement érotisé. Alors vraiment un conseil, si votre partenaire hurle pendant l'acte sexuel, arrêtez et éventuellement, je ne sais pas, proposez du lubrifiant. Il y a quelque chose de très voyeur et de très dérangeant, non pas parce qu'on nous montre des scènes de sodomie, mais dans cette volonté de faire souffrir le personnage incarné par Jane Birkin, sorte d'ange blond androgyne entouré d'hommes violents. On en apprend beaucoup d'une façon générale sur la personne qui réalise un film en analysant la façon dont il ou elle met en scène une scène de viol. Ici, la petite musique de Gainsbourg, car tant qu'à faire, autant placer ses compositions. Et le choix très esthétique des plans pour les scènes de sexe forcé ne laisse pas trop de place au doute. Il est évident qu'il n'y a guère de message ici, nous ne sommes pas dans le rape and revenge, le primo cinéaste a simplement laissé court à ses fantasmes, pensant sûrement choquer le bourgeois, ce qui a d'ailleurs très bien marché à l'époque.
Eh bien voilà qui est dit, hein, je t'aime moi non plus, et donc en reprise dans certains cinémas sur le territoire français. Ce film nous donne l'occasion eh bien, de parler de Jane Birkin, l'actrice et celle qui fut eh bien, la compagne de Serge Gainsbourg, et de rappeler eh bien, qu'elle fut aussi actrice et quelle femme elle fut. Et c'est Marine, évidemment, qui s'y colle.
Si Gainsbourg a réalisé « Je t'aime, moi non plus » alors qu'il jouissait déjà d'une carrière dans la musique plutôt conséquente, hein, ça n'est pas que par caprice aviné, mais bien parce que le musicien, chanteur et compositeur a en réalité commencé sa carrière artistique devant la caméra. C'est en tant qu'acteur, surtout dans des rôles de méchants d'ailleurs, qu'il entre dans le monde du spectacle, et c'est en tournant le film « Slogan » qu'il va rencontrer la comédienne Jane Birkin, qui deviendra sa compagne pendant 10 ans, mais qui a surtout eu une carrière artistique non seulement foisonnante mais également beaucoup plus longue que celle de son amant, auquel on ne cessera pourtant de l'associer. Jane Birkin, née en Angleterre, connaît des débuts plus que prometteurs avec son premier film Le Knack et Comment l'avoir en 64, un film dans lequel elle n'est pas le seul espoir puisqu'elle joue aux côtés de Jacqueline Bisset et de Charlotte Rampling, une sacrée distribution donc. Puis en 67, c'est Blow Up de Antonioni, Palme d'Or à Cannes et une apparition mémorable de Birkin dans une scène où on la déshabille entièrement de force. Premier scandale pour une artiste qui en connaîtra d'autres, car à l'époque, c'est l'une des premières fois où l'on montre de façon frontale une femme nue dans un film presque grand public. Un film qui, lorsqu'on le revoit en 2023, hein, après le scandale Weinstein, ne passe plus du tout, hein, puisqu'il raconte la vie d'un photographe que l'on pourrait qualifier de prédateur aujourd'hui.
Comment tu t'appelles ? Quelle importance ? À quoi ça sert les noms ? Au lit, comment on t'appelle,
hein? Moi, quand je vais au lit, c'est pour dormir.
Et puis, c'est l'envol. Birkin tourne avec tout ce que le cinéma français connaît de stars. Claude Zidi, Roger Vadim, Michel Deville, Michel Audiard, Jacques Rivette, Jacques Doyon. Côté comédien, elle est la partenaire de Devers, de Pierre Richard, de Brigitte Bardot. Et dans la piscine, De Ré lui fera même côtoyer les iconiques Alain Delon et Romy Schneider.
Vous vous connaissez depuis combien de temps, tous les deux?
2 ans.
2 ans?
2 ans et demi bientôt.
Et mon père?
5 ou 6 ans. Ou 7. C'est chez lui qu'on s'est vu pour la première fois, si tu te souviens.
À noter aussi une belle rencontre amicale et artistique qui va durer avec Agnès Varda, puisque Birkin va scénariser le film Kung Fu Master et la réalisatrice fera le documentaire Jane B par Agnès V, l'année de ses 40 ans. Même si par la suite, eh bien, les années 2010 hein, ne seront pas les plus marquantes de sa carrière au cinéma, Jane Birkin n'a cessé de tourner jusqu'à sa mort cet été, devant mais aussi derrière la caméra, puisqu'elle a réalisé 2 films, Oh pardon, tu dormais et Boxes.
Dire que j'ai quitté Max pour toi.
Avec Max, t'es papa vient manger. Silence. Non, papa ne vient pas manger. Comprendre ? Ne viendra plus jamais manger.
Vous étiez livré sans mot d'emploi, fallait se démerder.
I can't take any more memories.
Boxes, sorti en 2007, dans lequel une toute jeune Adèle Exarchopoulos joue l'un de ses premiers rôles. Et pour finir, eh bien Jane Birkin, c'est également 14 albums, une carrière au théâtre, une image d'icône de mode dont elle-même se foutait pas mal et surtout de très nombreux engagements. Imagine, tu as milité pour le droit à l'avortement dès les années 70, tu as fait partie des premières personnalités à défendre ouvertement les droits des personnes LGBT, notamment pour alerter le gouvernement au sujet de l'épidémie du sida, tu as lancé en 2009 une campagne de boycott contre Total, tu t'es investi en faveur des sans-papiers et pour l'écologie, mais ce qu'on retient de toi lors de ton décès en une des médias, c'est que tu es, je cite, « parti rejoindre ton ex ». Une injustice sexiste de plus, car Jane Birkin, c'était décidément bien plus que Serge Gainsbourg.
Et paf, c'était un petit retour sur l'œuvre et la vie, hein, un peu de Jane Birkin, puisque nous parlions de « Je t'aime, moi non plus ». Film en compétition à Cannes, Club Zéro de Jessica Hausner nous plonge dans un établissement scolaire avec une enseignante donnant des cours de nutrition radicaux.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Jessica Hausner a beau être liée à son compatriote Michael Haneke, elle n'a pas le même palmarès au Festival de Cannes où elle s'est retrouvée déjà programmée à 5 reprises entre la sélection Un certain regard et la compétition officielle. Mais que ce soit avec Little Joe, audacieux long métrage sur une plante qui pourrait prendre le dessus sur son créateur, ou avec Club Zéro cette année, la réalisatrice autrichienne repart de la croisette bredouille. Alors Club Zéro nous place dans un lycée privé où l'on retrouve, à de quelques exceptions près, bien les rejetons de la bourgeoisie ou des nouveaux riches. Alors nous sommes dans une époque où, et un lieu qu'on aurait du mal à définir et en même temps cela ressemble aux années 70 et puis en même temps cela a tout de notre époque. Alors ce serait une fable mais ça nous concerne quand même un peu. Nous sommes avec une poignée d'élèves dans le cours de Mademoiselle Novak qui professe un cours de nutrition avec un concept innovant bousculant des habitudes alimentaires. Il s'agit de l'alimentation consciente. Oui, un concept, on vous dit, cette méthode est censée renforcer et purifier votre corps. Alors il s'agit de manger moins et préserver ainsi sa propre santé et les ressources mondiales. Vous y croyez ? Alors peut-être qu'on peut y apporter du crédit, mais Mademoiselle Novak n'en reste pas là. Son cours de nutrition déborde. Petit à petit, et bien derrière sa rigidité qui se mêle à la douceur, elle va parvenir à prendre possession des esprits qu'elle est censée éclairer au point de les emmener dans un délire sectaire.
Pour moi, ce cours est tout à propos de self-control.
Take a couple of deep breaths. Conscious eating strengthens and purifies our bodies.
Wow. Elle a des atouts. Hein. La majorité de ses enfants, une fois dans leur foyer, semblent manquer de liens affectifs. De plus, elle peut mettre en avant la surconsommation de nourriture, comme son gaspillage, et la vision d'un monde que l'homme a grand-peine à contrôler, le menaçant sans cesse. Alors, elle n'a pas en face d'elle des militants, hein, mais une génération qui a grandi avec cette idée, malheureusement pas tout à fait admise encore, hein, que le monde a été bouleversé depuis l'avènement de la société industrielle. Le principe de Mademoiselle Novak est simple, faire admettre qu'il est nécessaire de moins manger et donc de préserver des ressources pour faire la bascule et faire entendre qu'il ne faut plus manger et ainsi gagner la jeunesse éternelle. Que ces enfants dont le cerveau est maintenant dévoué à une cause sectaire qui semble indéfendable ne comptent pas sur leurs parents hein, qui mettent beaucoup de temps, faute d'en accorder suffisamment à leurs enfants, pour comprendre quel processus est engagé. Alors d'ailleurs, placer leurs enfants dans cette institution privée est censé les préserver de toute inquiétude, ils ont pleine confiance en cette Mademoiselle Novak. Pour offrir cette vision de jeune conscience livrée à leur perte, Jessica Hausner use des mêmes effets que pour son précédent film, décor volontiers design et vintage, costumes, coiffures et cadres ciselés, ordonne un dispositif quasi d'enfermement, jusqu'à la musique qui consiste à donner quelques rythmes issus de tambours. Jessica Hausner ne fait pas l'économie d'une scène à vous tordre les boyaux. Certains yeux vont se fermer durant la projection, ça c'est évident. Cette scène volontiers outrancière est le point culminant de séquences qui concourent à ordonner un monde qui court à sa perte ou qui, pour le moins, manque singulièrement d'une conscience suffisamment alerte. On écoute Jessica Hausner qui était présente à Cannes hein, pour une solide conférence de presse.
Je ne dirais pas que c'est un film sur les troubles alimentaires. Je dirais plutôt qu'il s'agit d'une sorte de foi, une sorte de religion nutritionnelle bizarre qui existe entre Madame Novak, professeure, et ses élèves. Je me suis demandé comment les idées d'une personne pouvaient avoir une incidence sur les autres. On croit en certaines choses. C'est comme cela que nous basons nos décisions, mais au fil du temps, si nous sommes manipulés ou s'il y a des groupes radicaux, eh bien, ça peut avoir des conséquences dévastatrices sur d'autres personnes. Je voulais montrer à quel point des idées de certaines personnes peuvent être extrêmement solides, extrêmement ancrées.
Protecting the environment is extremely important to me.
For me, this course is all about self-control.
Take a couple of deep breaths. Conscious eating strengthens and purifies our bodies.
Wow.
Are you really going to eat all that?
Dans cette espèce de religion alimentaire de Madame Novak, qui devient un peu folle à la fin, on a à la base de tout cela quelque chose de vrai, de réel. Il est certain que les jeunes de ce film, à juste titre d'ailleurs, veulent se battre pour un meilleur environnement et pour une meilleure alimentation. Ils ont tout à fait raison, ces jeunes. Donc c'est un point très important du film, notamment avec le personnage de Elsa qui dit à la fin du film que l'industrie alimentaire détruit à la fois nos corps et notre planète. Elle a tout à fait raison. Et Madame Novak s'exprime aussi, se comporte de façon un peu extrémiste face à ça.
Reach up to the stars, there is more in
the sky. I find it so important to teach our kids how to reduce their consumerism.
I'm so sorry.
J'ai essayé d'observer et de montrer dans ce film ce qui se passe dans le monde, notamment avec toute la multitude de fausses informations qui circulent, notamment sur Internet. Je dois dire qu'il est difficile de s'y retrouver. Il est difficile de naviguer à travers toutes ces déclarations pour savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il y a une autre chose qui est apparu récemment, c'est la tendance à la radicalisation, ce dont le film parle d'ailleurs. On essaie de montrer comment cela peut apparaître, peut se développer, et pourquoi. Peut-être devrions-nous, à un certain moment, apprendre à mieux écouter. Dans Club Zéro, nous voyons qu'on aborde des questions liées à l'environnement. Et il est important pour nous de bien écouter les autres avant de tomber dans la radicalisation.
Mais je pense que Miss Novak est manipulating our children. Oh, please.
Eat the damn sausage.
Je dessine des images, je conçois des images un petit peu comme un peintre, et les couleurs, les costumes, tout ce qu'on voit sur le plateau, tout cela fait partie de ma façon de filmer. Et c'est le cas dans tous mes films. Je travaille avec le chef opérateur Martin Schlark, et je pense qu'ensemble nous élaborons un certain style. Bien sûr, il y a un certain réalisme dans tout cela, mais c'est un réalisme un petit peu artificiel, plus artificiel que ce que l'on voit habituellement dans la réalité. Je n'ai pas voulu que l'histoire soit située à une époque particulière ou en un endroit particulier, c'est plutôt une histoire hors du temps. Et en ce qui concerne le maquillage, dès le début, lorsque j'ai commencé à écrire le scénario, j'ai décidé que personne ne devait perdre de poids dans ce film. Je pense qu'il faut qu'on perde beaucoup de poids jusqu'à ce qu'on le voit, cette maigreur à l'écran, mais j'ai refusé de demander cela aux acteurs. Et le maquillage suggère que ces jeunes perdent du poids, et avec les costumes aussi, nous avons mis l'accent sur des vêtements de forme et de largeur différentes. Certains ont l'air maigres, d'autres ce n'est pas le cas. Donc nous avons utilisé toutes sortes de trucs pour que les gens donnent l'impression d'être minces.
Oh. C'était Jessica Hausner pour le film Club Zero, qui était présent à Cannes et qui est en salle depuis le 27 septembre. Après le controversé hypnotique dans les salles cet été, Robert Rodriguez revient par la case Netflix. C'est Spy Kids Armageddon.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Et oui, bah, c'est effectivement son récent hypnotique d'attendre à peine un mois, ne vous a pas hypnotisé. Ben revoilà Rodriguez, prêt à vous cramer les yeux et les neurones, mais cette fois sur Netflix. Alors la plateforme étant justement célèbre pour vous proposer du contenu et boucher des trous, eh bien quoi de mieux que de demander à un réalisateur de signer un nouvel opus d'une série déjà bien essorée par 4 films, et tant pis si l'originalité est bien sûr aux abonnés eux absents, et si on se demande bien qui peut avoir quelque chose à faire d'un nouvel épisode de la saga familiale Spy Kids en 2023. Ben voilà, justement, ben peut-être que dans les algorithmes des producteurs et de leur infernale machine à choisir vos programmes, une savante étude de marché, ou une intelligence artificielle, ce qui est plus probable, leur a soumis la brillante idée qu'il fallait un film d'action familiale pour rentabiliser les abonnements. Et quoi de mieux donc qu'un nouveau Spy Kids, hein, étant donné que les kids des années 2000 sont désormais assez grands et ont peut-être à leur tour des marmots à lobotomiser, et que Robert Rodriguez est capable de pondre des produits tournés sur fond vert plus vite que son ombre au sein de son bien nommé Troublemaker Studio.
Il se passe quelque chose.
Ça s'est répandu dans le monde entier. C'est une sorte de mélange d'un virus de jeu vidéo avec...
Le code Armageddon. C'est quoi ces trucs ?
Des méchants qui viennent de notre jeu vidéo ! Oh !
Sauvez-vous les enfants, vite !
Alors oui, présenté comme ça, Spy Kids Armageddon ne fait pas envie, hein, mais alors pas du tout. Alors on ne reviendra pas sur le passif du monsieur entre expérimentation psychédélico-branchée et système D basé sur du fond vert et des incrustes immondes, bien loin de ses débuts, eux, enthousiasmants. D'ailleurs, ben, ce fut véritablement le premier Spy Kids en 2001 qui marqua en fanfare le début de la fin pour le plus mexicain des réalisateurs texans. Bon, ne soyons pas trop vaches quand même, hein, puisque Rodriguez se chargera de toute façon lui-même de pourrir sa filmographie. Alors le premier Spy Kids est un divertissement familial regardable, hein, fait avec une énergie plutôt fédératrice et une volonté de transformer des enfants en espions à la James Bond 2.0 de façon plutôt enthousiasmante. Passons les estimables clins d'œil et hommages à Ray Harryhausen, hein, même si fait en numérique du 2. Le 3, le bien nommé Spy Kids Mission 3D, en 3D donc, hein, exploser les limites de la bienséance visuelle pour nous plonger dans le monde virtuel le plus atroce vu depuis au moins le Cobaye 2 en 96. Sylvester Stallone, alors au plus profond de du creux de sa vague, hein, ben venait même y organiser un espèce de suicide artistique en interprétant le Toy Master, un créateur supposément génial s'apprêtant à prendre le contrôle du cerveau de tous les jeunes de la planète via un jeu vidéo qui aurait été refusé par tous les développeurs de la PlayStation 1. Alors on peut oublier un 4 tardif que pas grand monde n'a vu, et voilà que l'option donc remake, reboot se pointe grâce à la plateforme la plus opportuniste du monde. Et oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais alors ça vaut quoi Spy Kids 4,5 ?
Attends un peu, je crois que maman et papa sont des espions.
Sans blague.
On doit trouver nos parents tout de suite.
Salut les loulous, si vous êtes là et que vous êtes seuls, c'est que les choses ont atrocement mal tourné.
Eh bien, Spy Kids Armageddon est exactement ce à quoi vous pourriez, hein, vous attendre, hein, à savoir un reboot, hein, qui reprend les éléments de tous les films précédents sans trop s'embarrasser d'originalité. Encore une fois, il sera question des enfants des plus grands agents secrets du monde qui viendront sauver la mise, hein, alors que ceux-ci échouent, hein, dans une mission impliquant un grand vilain qui veut contrôler le monde grâce à un jeu vidéo. Rien ne manque à l'appel, tant tout semble avoir déjà été fait, hein, par le passé et ici fusionné avec de petites mises à jour. Mais il serait hypocrite, hein, de cracher devant un divertissement qui annonce clairement ses intentions, ben à contrario de certaines prétentions qu'a eu Rodriguez dans un passé pas lointain du tout, de l'adaptation complètement ratée, hein, d'un classique du manga avec Alita ou d'un thriller fantastique à la Hitchcock avec le risible hypnotique. Les Spy Kids sont des films familiaux faits en famille, d'ailleurs le scénario est toujours signé par son fils, hein, depuis des années. Et c'est sûrement là, bah, que vous retrouverez le Rodriguez le plus sincère, celui qui rate ses expérimentations faisandées, mais fait mumuse avec ses fonds verts, qui crie son amour du cinéma donc de Ray Harryhausen, en y plaçant des squelettes issus de Jason les Argonautes, et se fait le chantre des jeux vidéo pour ne pas en faire une morale trop idiote, bah, ce qui change quand même de la plupart des productions hollywoodiennes récentes comme un peu plus anciennes. Alors si on ajoute des effets spéciaux, technologie évoluant beaucoup moins laid qu'auparavant, on pourrait presque recommander le film, hein, pour les déviants, si tout fois, ben vous pouvez quand même supporter des enfants stars jouant comme des patates, hein, elles bien réelles.
Eh bien en tout cas c'est validé ce film Spy Kids Armageddon, c'est sur la plateforme Netflix.
Alors
c'est fini l'heure des visites, on va fermer du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine avec au moins deux films de réalisatrices.
Oui, moi d'abord, je vais vous parler du dernier film de Eva Husson qui s'appelle Entre les lignes.
Et puis moi, je vous parlerai de la comédie de Léa Doménac autour de la figure de Bernadette Chirac. C'est le film Bernadette. À la semaine prochaine.